là, il est allé, et son père, il est allé passer un an à Shanghai, comme bras droit de la directrice du vocal, ensuite il est revenu, il est allé passer un an avec lui, pour être courageux, tout seul là-bas, pour créer ses réseaux, etc. Et puis maintenant, il est entre Paris, New York, tout ça, et il est par Shanghai. Et le dernier m'a dit, moi je fais une école de commerce, le métier pour continuer à voir ça, il a commencé, et maintenant il fait.
Alors, Picard, qui est à l'école, comment on appelle cette formation à, au métier de l'art contemporain,
de l'art et de la communication.
De l'art et de la communication.
Parce que on est dans un nouveau monde de communication. C'est pour ça qu'on dit Warhol. C'est pour ça que les artistes sont tellement des voyants. Warhol nous dit, en 1960, nous entrons dans un temps où chaque personne sera célèbre en un quart d'heure. Donc, il nous montre la montée en puissance des médias. Et il fait. Et la montée en puissance, la starification des images, sans arrêter. Ça, c'est bon. Et par ça, c'était déjà voyant. Mais à côté de ça, il nous montre la montée en puissance des marques multinationales, Brio, Coca-Cola, Campbell Soup. 40 ans après, quel est le pouvoir planétaire? C'est le pouvoir médiatique. Ce sont les propriétaires des annonceurs. Ce sont les annonceurs multinationales. Donc, cette sorte d'uniformisation planétaire, nous avance lui comme spectateur. Et puis arrive en face un gosse, moitié haïtien, moitié portoricain, qui vit dans la rue, et qui écrit des choses hallucinantes. Et ici, il savon, et tout savon. Et il écrit, entre autres, américain. Imaginez, il est noir, moitié haïtien, moitié portoricain, il vit dans la rue, et il apostrophe l'Amérique. Américain, vous devriez vivre avec plus de spiritualité. Vous portez tout ce que vous possédez, collez comme des tags sur vos fronts. Et tout le monde se disait, ici, les savants, qui étaient tellement sublimes, tellement intelligents, qui sont les savants. Et puis un jour, il passe dans un restaurant et il voit Warhol qui est en train de déjeuner à quelqu'un. Bon, il faisait des cartes postales. D'ailleurs, hier soir, j'en ai vendu deux cartes postales. Il faisait des cartes postales qu'il essayait de vendre comme ça. Il montre ça à Warhol, il vient lui parler, et puis il dit, vous avez encore un peu de temps, hein, il commence à déjeuner. Il fonce dans son endroit et il fait un portrait, il était dans la forme de la situation Warhol, et un autre portrait, plus le portrait de Warhol qui lui apporte. Ouais, c'est hallucinant, il va plus vite que moi qui fais des scénographies, c'est pas hallucinant. Et donc Warhol, évidemment, comprend ce que c'est un petit génie, parce que Warhol c'est Charlie Parker, c'est Kerouac. Et il commence à l'aider. Et Richard Berger a l'idée de faire des collaborations. Donc, quand vous voyez les collaborations Warhol Basquiat, j'ai dû en vendre quelques-uns il y a quelques années. J'ai dit, mais regardez bien, c'est capital. Toutes les guerres actuelles, c'est Warhol Basquiat. C'est, la, c'est la, la, l'affrontement entre les tentatives d'uniformisation planétaire et la revendication des racines culturelles. Et ce gosse était merveilleux parce qu'il était très, très, très cultivé en plus. Ça, c'était pas, hein, pas du tout. Son père était très comptable, c'était pas du tout un gosse. Mais c'était un petit génie, quoi. Il était poète. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que je l'avais peint, mais j'ai commencé à écrire. Et j'ai un poète de lui. Il était magicien, enfin, c'est bien.
Comment le truc s'en penchant pour l'anatomie?
Ben, parce qu'il y a eu un accident. Et il est resté à l'hôpital pendant pas mal de temps. Et pour comprendre ça, il a étudié l'anatomie et il a commencé à dessiner le corps humain pour essayer de comprendre comment il était fait, pourquoi c'était cassé. Enfin, il était extrêmement curieux, extrêmement. Ah, il était vraiment extraordinaire.
Tiens, il y a une enquête, hein, c'est dire, pour faire une collection, il faut être riche. Beaucoup d'argent, etc. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire une collection sans affiche? C'est ce qu'on essaye de dire à tout le monde, d'ailleurs, que moi, je suis des œuvres d'art, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent.
Il ne faut pas d'argent pour collection. Il faut avoir envie. Là, j'ai l'exemple, par exemple, d'un des copains, tout à fait au début, on s'est battu pour basket, et lui, il avait un tout petit poste dans une banque, il avait un tout petit salaire, il avait un petit appartement, c'est le canapé, vraiment un tout petit poste. Et on s'est dit, Basquiat est absolument. Et lui, il a eu le courage. l'image, il l'a emprunté à sa banque. Un tableau qui était l'équivalent de 5 euros à l'époque, il l'a emprunté à sa banque pendant 1 an et demi pour avoir ce tableau. Et donc, quand il était en centre de temps, et bien là maintenant, il est avec un salaire libéré, il vient de vendre, il a vendu 3 millions d'euros. Donc, ça veut dire que les bons collectionneurs achètent avant. C'est pas du tout avant le départ.
C'était tout petit chez lui, je me souviens.
Petit, c'était gros.
C'était
gros. Et donc, et on sait, moi aussi, j'ai acheté des tableaux de Pascal, mais j'ai payé en 12 fois. Mais au départ, ça valait rien. Le premier dessin de Pascal, j'ai acheté 400 dollars. Et donc, c'est pas un problème d'argent. Les dessins anciens, je les ai achetés pour rien. Là, je me souviens, j'avais acheté pour 10 euros un dessin de bleu comme ça. Je trouve que c'est un état incroyable parce que le bleu 18e, quand il est mis à la lumière, il vient gris. Celui-là était. Et qui s'est révélé être le dessin donatoire, préparatoire du tableau de Moses Tocqueville. 10 euros. Donc là. Et puis après, quand j'ai lancé dans la photo, j'ai acheté Man Ray par l'énergie pour 1500 francs, ça avait 1000 francs, ça avait rien. Première vente qu'on a faite, hallucinant, sublimissime. Et puis bon, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis après, j'ai lancé Pascal Farol, ça n'est rien. Et alors maintenant, quand on me dit, après, je suis allé en Chine, au départ, je connais tous les convertisseurs, j'étais pour rien. C'était vraiment au départ. Et puis maintenant, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut acheter? Moi, j'ai dit, écoutez, le dernier pays émergent sur la scène internationale, c'est la France. Nous avons des artistes fantastiques pour rien. Donc, mon conseil, achetez des artistes français. On a des artistes fantastiques. Et bien absolument. Quand le mur de Berlin sera tombé, je veux dire, si on arrive à faire tomber le mur de Berlin, si on libère la France du communisme, et qu'on repart à la conquête du monde, nos artistes vont revenir sur la scène internationale. On a des artistes formidables. C'est honteux ce qui se passe hier. Hier, on avait une tôle de Reims, sublimissime, des années 60, pour en réalité. Pour 15 000 euros, il n'y avait personne. Merde. Alors qu'on a vraiment des artistes formidables, historiques. Et la jeune génération est formidable. Parce que vous savez, pour survivre ici, l'artiste est mort. Il faut en vouloir. Donc, et puis, c'est même. Si vous voulez, maintenant, non seulement il y a toute cette jeune génération d'artistes, mais il y a aussi ceux qui sont dans les technologies. Et puis. Comme l'art et la science, c'est pareil, on a des chercheurs fabuleux. Et de nouveau, c'est toujours le même problème. Vous avez 100 chercheurs, vous avez 2 génies, et vous avez 98 mecs qui enseignent 4 heures par semaine et qui font une recherche sur la culture des opinards à Zanzibar, qui est vraiment important pour l'avenir de l'humanité. Donc tout l'argent, au lieu d'aller vers les génies, va vers ceux qui travaillent 4 heures par semaine, puis le résultat, ils font souvent des vidéos. Donc si vous voulez, c'est toute cette machine qu'il faut. Ça peut redémarrer en 24 heures. Font des grèves furieuses, mais ça va s'arrêter. On va y arriver. Donc, si vous voulez, toute cette mécanique, on voit très bien quand on décide de faire travailler public privé, ça démarre en un quart d'heure. Et tu l'as fait, on a envie de le faire, ça. Donc, tout ça, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. C'est où ça, on va devenir un risque développé. Donc, c'est pas possible.
On va essayer de bien le mieux avec ça.
Allez-y, maintenant on n'est pas très. Vous venez devant comme ça. On veut.
Par rapport à ce que vous dites pour la collection, comment vous avez commencé par un dessin, et si moi par exemple, je veux commencer à peut-être devenir millionnaire avant 30 ans, on ne sait pas.
C'est pas le but, il ne faut surtout pas se dire.
Non, mais c'est pour caricature.
Oui, mais je sais. Mais.
Bien entendu, c'est une histoire de passion, ça j'entends bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment. Je reviens à Walter Benjamin et puis à l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité. En fait, comment, à l'heure actuelle, si par exemple je possède un DVD de je ne sais qui me l'a donné 5 euros juste le prix du DVD, comment on va faire la valeur en fait de cette.
Ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, je suis au même point que ce qu'on a fait pour la photographie. créer une règle. Alors qu'elle, donc il est clair que si, si c'est un si c'est un DVD, il y a un certificat, il y a 10 exemplaires, ou 5 exemplaires, ou 1 exemplaire, et vous ne pouvez le vendre que si vous avez le certificat. Bon, c'est arrivé aussi beaucoup maintenant pour le, tout l'art minimal et tout l'art conceptuel, si vous avez Carl André, vous ne pouvez pas le vendre sans certificat de Carl André. Donc toute cette mécanique est déjà en place. Et après ça, on va maintenant créer des règles. Comment possède-t-on une œuvre immatérielle? Et puis je vois aussi les artistes en disant tout ce que il faut que vous donniez des œuvres qui soient parfaites, terminées. Hein. Pas des fils qui pendent, il va falloir aussi qu'un collectionneur. Moi je veux qu'on puisse accrocher une œuvre numérique entre deux tableaux. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Hein. Parce qu'on va vers un art total. Être visuel, sonore, évolutif, interactif, on peut même mettre des odeurs. Je vois par exemple la bonne note de Miguel Chevalier, c'est incroyable. Il a planté une fleur, il lui donne un écran, il lui donne un programme, et la fleur est là. Et elle pousse, et elle fleurit, à la vitesse de la vraie fleur. Et puis elle se fane, et puis elle reprend, et puis vous êtes dans un univers parallèle matériel qui est le même que le monde réel. Quoi. Dans ce, il va falloir maintenant qu'on apprenne à jouer et à vivre entre ces mondes virtuels et parallèles, parce que c'est notre monde. On va avoir des hologrammes, on va bientôt pouvoir faire des chanteurs, va vouloir chanter dans des cités différentes, leur hologramme, ils vont monter sur scène, on ne voit pas la différence. Hein. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. C'est merveilleux. Mais comme toujours, il ne faut pas être victime de ces nouveaux langages, de ces nouvelles technologies. Il faut leur donner du contenu. Parce que vous savez, dans une nouvelle civilisation, parce que nous disons, il faut tout reconstruire. Une nouvelle spiritualité, des nouveaux rapports entre les êtres humains, des nouveaux rapports avec la planète, des nouveaux rapports avec l'univers. Tout ça, il faut, c'est passionnant. On vit en 1450. On a la chance de vivre un moment d'histoire extraordinaire. Enthousiasmant. On est marre d'entendre des gens. Pas son temps à se plaindre. Et à jamais, il y a, mais c'est bien, c'est pas possible, ça va pas. Et là, et là, c'est tout ça. Et là,
on change d'air.
Oui, on a changé d'air. On vit en 1450.
Alors, comment être collectionneur aussi pour qui on
pareil.
Mais tout qu'on fait, c'est pas si immatériel. Parce que si on dépend d'un dispositif technologique, en fin de compte, la vraie immatérialité, c'est le rien. C'est le.
Dans l'immatériel, ça veut dire que c'est pas un perso avec
c'est pas un objet.
Mais en même temps, ça va devenir aussi des objets, parce qu'au fond, vous savez, quand vous regardez un tableau, vous savez, les couleurs n'existent pas. Les couleurs sont des longueurs d'onde. Donc, finalement, quand vous regardez un tableau, vous ne regardez que de l'immatériel. Alors, c'est quand même pas l'odeur de la térébenthine qui fait l'art. Hein. Donc, quand vous regardez une œuvre, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit sur la toile, vous ne voyez que des ondes. Et en plus, ces ondes, c'est votre cerveau qui les analyse et qui les transforme. Et puis, si vous avez appris, qui vous procure, c'est quand même hallucinant le cerveau humain. Une machine, boule d'eau avec des neurones, crée une œuvre sans aucune utilité pour la survie, la nourriture, la reproduction, pour le bonheur d'autres neurones. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte de la sophistication de l'espèce humaine? Parce que ce qu'on fait quelque chose, ça ne sert à rien d'autre qu'à la. Quand vous écoutez Mozart, hein, vous pleurez, et vous. Mais en même temps, il faut apprendre. Vous savez, par exemple, quand on me dit, quand je vous allez en Chine, vous écoutez un opéra chinois que vous ne connaissez pas, il est sur ça, ils vont dire. Vous avez un chinois qui pleure. Et lui, il a appris, il a compris. Donc, c'est clair que c'est quand même hallucinant. Vous rendez compte, la sophistication de l'espèce humaine, de ce cerveau. Il crée quelque chose pour le bonheur d'un autre cerveau. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à, ni à se reproduire, ni à manger, ni à se loger, ni à se vêtir, rien. C'est quand même fabuleux, quoi. Vous savez, j'espère que j'ai amené mon copain, qui est Pascal Pic, qui est un grand spécialiste des œuvres préhistoriques. Les œuvres préhistoriques, déjà, quand on parle des œuvres préhistoriques, ce n'est pas du tout des bonnets qui essayaient de faire. Qui attendaient la pluie ou ça. Ils allaient chercher très loin de leur habitat, des outils et des matériaux pour pouvoir créer. Donc ce cerveau, déjà, des hommes préhistoriques, était déjà très évolué en ce temps. L'espèce humaine est absolument extraordinaire. Donc c'est pour ça que si vous entrez dans ce nouvel art, là, il va falloir que. Vous savez, moi, les dessins, j'ai appris. Hein. C'était chez les brocanteurs, ça n'intéresse personne. On apprend à aimer, on apprend à comprendre, on apprend à jouir. Ça provoque des jouissances extraordinaires. Voilà. Comme l'amour, hein. C'est une des formes de l'amour.
Et pourquoi ça va pas de l'art tridimensionnel ? On a la cuisine, par exemple. On a commencé avec le goût. Ensuite, Pierre Gagné a mis la couleur. Et puis, là, ici, dans nos chapeaux noirs, c'est la joie, Vera. Lui a mis la troisième dimension qui est l'odorat. Bon, et on n'a pas cette troisième dimension de l'odorat dans les œuvres d'art.
Ça y est. Ça y est, maintenant vous pouvez, vous avez déjà une technologie, vous créez une œuvre à Melbourne, et vous pouvez produire une odeur qui va sortir dans la rue. Ça y est, c'est fait. Hein. La technologie permet.
Il y a des artistes et des expositions, tu sais.
Ça va commencer, là.
Ah non, mais tu devrais, parce que tu vas avec les sciences. Dans les neurosciences. Dans les neurosciences, l'odorat, ça fait partie. Dans les neurosciences, l'odorat, c'est un élément très important.
Je veux dire que d'ailleurs, on va plutôt dans les travaux qu'on est en train de mettre en place, c'est l'œil qui est en train de se mettre au repos.
Oui.
Non pas qu'on va l'annuler, hein, la vision, le fait de la vision, mais. Mais c'est plus les autres sens qui vont être convoqués. De fait, c'est pas les sens, les cinq sens aussi, c'est l'ensemble du corps dans sa relation perceptuelle à l'environnement. C'est pas que le son, que l'oreille, que l'audition. Si tu veux, on parle des cinq sens, mais la manière dont le cerveau et le corps relatent cette perception passe au-delà de ces cinq sens. C'est beaucoup plus complexe.
En fait, il y a des artistes comme Marcel Reiss. Et on fait effectivement que jouer son odorat avec le parfum qui sentait la sueur.
Mais il faudrait que Miguel Chevalier.
Mais si tu veux décréter un brouillard coloré pour reparler de ma bonne copine, si ouais. Tu veux, puisque c'est avec elle qu'on le lance et qu'on aura ce conteneur, il part par une odeur. Quel que soit le type d'odeur, en définitive, la question n'est pas de qualifier une odeur. C'est qu'à un moment, tu es pris dans cette globalité.
Parce que le corps, c'est le cerveau, c'est le patron, tout l'ensemble.
C'est l'hypothèse, par contre, c'est que, alors là, on est dans la folie totale, on s'est dit que peut-être que même on sortirait du corps,
oui.
Et que c'est l'espace lui-même qui deviendrait intelligent.
Oui. Absolument, mais on parle maintenant des univers parallèles.
La théorie des corps,
déjà. Et puis ce sont vraiment pas de la science-fiction, hein. Ce sont vraiment des vrais.
Donc à côté de toi, il y a un autre Pierre.
Est-ce qu'il y a des autres questions?
Tu peux lui passer du coup aussi, attends.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qui veut intervenir?
On a remarqué
qu'après
la guerre, aux États-Unis, effectivement, l'Europe, et ils avaient de grands communicants et de grands critiques qui ont porté cette peinture. Sans les critiques d'art de l'époque, on se dit, elle n'aurait pas existé. Est-ce que chez nous, aujourd'hui, on a
eu. On a eu,
mais
on a
eu.
On a eu le dernier. Moi, je trouve que le dernier grand, ça a été Pierre, parce qu'il s'est vraiment battu. Et après, ils ont été enfermés, parce que vous savez, maintenant dans la presse, si vous avez le moindre courage, vous êtes flingué. Bon, hein, donc, pour faire chic, il faut flinguer. La marche était formidable. Non, mais lui aussi.
La marche Vadel.
Il va y avoir une explosion. Également un peu trop tôt, mais c'est vrai qu'il est formidable, la marche, c'est bon. Non, mais je parle de maintenant.
Nicolas, quand même, a fait des
efforts. Notre cher, le dernier, non, mais je veux dire, le dernier qui a été crédité, mais qui était aussi dans la vie, ça a été Nicolas Bourguignon. C'est-à-dire, l'élève, le seul disciple de Pierre Estany, Nicolas Bourguignon est devenu ce qu'il est après avoir écouté une conférence de Pierre. Et le dernier qui a créé un mouvement autour de lui, parce que tous les artistes, Pierre Joseph, Philippe Parreno, Gonzalez Foster, etc., c'est lui qui les a. Et lui, non seulement il est saint, mais comme Pierre, mais c'est avec lui qu'on a créé le Palais de Tokyo. Et c'est un vrai battant, quoi. Mais maintenant, il est à Londres. Et alors, quand je lui disais qu'on était un pays communiste, il me disait, oh, t'es Maintenant, il y a des gens qui disent, enfin, comment est-ce que tu vas dire ? Mais tu comprends ici, quand je propose quelque chose, on me dit, essayez. En France, on te dit d'abord non. La seule chose qu'ils savent faire, c'est dire non. Parce qu'ils ont continué à dormir. Donc, ils disent, oui, il faut faire. Je te dis non, tu continues à dormir. Et donc, Nicolas et...
Oui, mais modernité, je ne suis pas si sûre. Je n'ai pas lu tous les textes encore.
Non, je ne sais pas.
Et tu sais quoi ? Je me demande, mais ça, on pourra inviter Nicolas et en parler.
Oui. Hein,
parce que, bon, l'esthétique relationnelle, c'est un moment assez juste, en effet, une belle rencontre avec une pensée, des artistes, un accompagnement, bien qu'il n'y ait pas l'esprit maïotique, la force maïotique que Pierre pouvait développer, ça c'est encore autre chose. Mais moi, je me demande si aujourd'hui, on a besoin de passer par ces grands critiques d'art et ces grands mouvements, c'est plus de la même manière que les choses s'appréhendent. Alors, je ne sais pas comment on va les communiquer, mais je ne pense pas que, en tous les cas, c'est pas, je vais critiquer Nicolas, mais l'altermodernité, tu vois, ce n'est pas dans l'histoire de qualification des courants, les choses sont en train de se construire autrement, me semble-t-il. Mais je ne sais pas.
Il va falloir trouver des penseurs, vous avez raison, il faut des penseurs. Il faut des penseurs.
Mais alors, c'est vrai.
Vous avez raison, mais plus que des critiques d'art maintenant.
Mais je me demande si c'est plus dans la mosaïque de ces penseurs que des grands penseurs. Parce qu'on est plus en train de rassembler des chercheurs que, comme pour ce laboratoire, là, on va rassembler des historiens de l'art, des philosophes, des scientifiques, des artistes. Et au bout du compte, ça va être, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça sera, comment dire, une addition de pensée.
Mais on a besoin de pensée forte.
Oui, mais non, parce que je ne crois pas que ça, l'époque se prête à ça, et que peut-être que sortira ce poseur à un moment des pensées plus fortes. Mais pour autant, ça me semblerait, en tous les cas, presque, non seulement autoritaire, mais
décalé
que de
l'imposer. On ne peut pas l'imposer, on ne peut pas
les créer. Mais critique d'art, ce sont obligatoirement le mot qui compte non plus.
Oui, c'est
parce qu'on voit,
la critique aujourd'hui, c'est pas...
On l'a que des journalistes
maintenant.
C'est plus le bon mot.
C'est
plus le bon mot, parce que les critiques ne portent plus.
Oui,
le plus
grand critique d'art,
c'est
le philosophe. Oui, si le 19e siècle a été la peinture en France, elle était celle de la philosophie et de la critique d'art en Allemagne.
Oui, enfin, la philosophie en France, là, pour le coup, c'est un peu, à part Lyotard, c'est un peu risqué.
Et puis les artistes eux-mêmes, quand on est au bout de l'air, dans les salons, c'était plus intéressant que les critiques d'art de l'époque. Un Stendhal, quand il parlait d'art, c'est comme ça. Donc on a besoin de penseurs.
Je ne dis pas qu'il faut les mettre aujourd'hui.
On va inventer l'autre. Absolument. On a besoin, en réalité, de gens qui
le langage, quel qu'il soit.
Mais cela dit, on s'apprête à lancer la notion d'accueillir un critique d'art par an, mais on ne sait même plus si on va l'appeler critique d'art, mais c'est quelqu'un qui va écrire.
Non, mais c'est un décrypteur.
Parce que je disais, c'est un décrypteur qui doit écrire
un décrypteur. Un écrivain et un parleur. Voilà.
Il faut décoder.
Moi, je pense qu'on a besoin.
Il y a une proposition, ça, sur les collectionneurs.
Entre autres, voilà. Les collectionneurs sont des aventuriers, sont des costumes.
Oui, non, mais pour peu que même ce vote d'un décryptage de la pensée, oui, parce que bon, ça demande d'études et recherches, des réflexions.
Absolument.
Et nous-mêmes, en tant que personnes aux côtés des artistes dans les institutions, même si nous, je trouve qu'on est une institution privée, comme tu le sais à l'origine, d'ailleurs, donc ça, c'est pour dire qu'on ne l'est pas, au fond, on a le temps, cette pensée-là. Moi, je trouve qu'il faut donner du temps aux gens pour réfléchir, pour faire
les choses. On a besoin de visionnaires, en fait. Et les visionnaires, et en fait, les bons collectionneurs sont des visionnaires. Ce sont eux qui contrôlent avant tout le monde. Pourquoi, comment, ça va faire. C'est les cosmonautes, hein. Il faut être cosmonautes.
Oui, donc, tu veux nous parler de ta passion de collectionneur.
Je ne suis pas tout à fait précis, c'est une jeune génération.
On va voir ce qui va sortir.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment eu cette reprise-là. C'est vrai que l'histoire de Pierre Estelle.
Mais c'est vrai que c'était une époque. Parce qu'il y avait un individu avec une école, maintenant il n'y a plus d'école. Les artistes qui font, que ce soit Mathieu Mercier, que ce soit Fabrice Hiver, que ce soit. Il n'y a plus d'école. Donc il n'y a plus d'école, plus de critique.
Et quelle était la relation de Pierre Estelle avec les collectionneurs? Il y avait une relation, pas du tout. Ou est-ce qu'il les a peu des gens qui
n'ont pas dit de quoi
ils les aimaient
Il les adorait, il était, vous savez, c'est l'esprit le plus ouvert. Moi, ce que j'ai adoré avec Pierre, c'est que les gens intelligents n'ont pas d'idée toute faite. Donc il était ouvert à tout, il n'avait aucun a priori. Les collectionneurs qui étaient des. Enfin, il était aussi très dur dans ses jugements, vous savez, pour les gens. Quand il était nul, il était nul. Hein. Il y avait des artistes aussi. Là, je ne vais pas dire le nom, mais bien, ce n'est pas grand-chose. Il était trop mignon, parce qu'il avait trop bon. Je me suis fait cette détail, il m'a fallu du temps, parce que à l'origine, j'ai peur d'être pas comptable, parce que moi, c'est pas possible. Donc, il faut que j'aille t'aider. Alors, il s'était fait scène. Alors, il est là, comme ça, puis il parlait. Alors, j'avais tout en bas, en première, ça me met un cigare. Il commençait à parler comme ça, et c'est une bonne soirée, c'est une bonne soirée. C'était merveilleux, il avait une clarté. Mais ce que j'adorais avec chez Pierre, c'est que c'était non seulement un penseur, une rigueur absolue, mais un vrai être vivant. Alors, j'avais fait le cigare de ma vie, il a fait le cigare, et puis il avait la vie, les femmes, il avait sauté, il avait le cigare, il avait le cigare, il avait le cigare, il a fumé 4 ans de récolte. Bas, enfin, mais il est mort de ça, il ne s'occupait pas, c'est de son corps. Mais quel type, il était bien, vraiment, c'était un bonheur. Vous savez, j'ai vu travailler quand c'est l'opération des drapeaux avec Jean-Pierre Ménon, d'abord, la campagne de ce drapeau. J'ai vu la théorie se faire devant moi, je me suis dit, quel change du temps de dire avec eux. Je voyais tout ça en train de se constituer. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, ce sont eux qui font l'histoire de l'art. Il était très très proche des collectionneurs, très très proche de ceux qui aimaient. Je crois que dans cette nouvelle civilisation, il va falloir aller pouvoir le faire. Parce que je ne crois pas pouvoir.
Ah, mais je vois qu'il y a une polémique là, sur l'absence des femmes dans.
Parce que Parce que je pense vraiment que cette nouvelle civilisation, l'usage de la force, c'est tellement stupide. Vous voyez ce qui se passe sur cette planète. Donc, on fait un autre, je ne suis pas très bien, on va s'entretuer. Hein, on va s'entretuer. Alors que ce que j'ai vu à Tali avant-hier, il m'a dit tout le microcrédit en Afrique est tenu par les femmes. Donc, c'est vraiment. Et c'est dans cette nouvelle civilisation qui va être sur l'intuition, sur la créativité, sur l'usage de la force, et toujours, ceux qui utilisent la force sont toujours des trouillards ou des imbéciles. Vraiment, hein. Donc on a besoin maintenant, dans ce nouveau monde fondé uniquement sur la créativité, développer la
créativité. Mais est-ce qu'il faut faire des expositions chabada alors?
Bon. Non, mais je veux dire que les hommes développent leur partie créative, féminine, et qu'ils arrêtent de faire des trucs. C'est vrai. Mais il ne faut pas que, quand les hommes s'abaissent, quand les femmes s'abaissent à ressembler aux hommes, alors là, c'est normal qu'ils vont envoyer tout ça, c'est quand même Il faut vraiment développer la partie
romantique.
Justement, c'est très romantique. Je voudrais que justement on développe cette partie. Exactement. Je voudrais au contraire qu'on développe cette partie de l'imaginaire, du romantique, de la créativité, et qu'on arrête de la force qui est vraiment la manifestation des imbéciles. Je me dis qu'il n'y a pas que les femmes, il y en a un qui est très bien, c'est des masculins. Donc c'est toute cette. On est dans ce nouveau monde tellement extraordinaire que enfin, moi je suis très optimiste parce que je suis dans un monde prodigieux. Je voudrais qu'on développe, justement, développe la partie de créativité. On est tout seul. Surtout quand on a avec des copains cosmonautes, ça ne se passe pas bien dans l'espace. Quand on voit ce qu'est l'univers, on est un tout petit vaisseau spatial comme ça, tout petit, à côté d'une toute petite étoile, au bord d'une galaxie, dans les 100 milliards d'étoiles, au milieu de 100 milliards de galaxies, on est tout seul pour l'instant. Et on se tire dessus. Il faut être comme si on était dans un avion, comme si on était des débiles, quoi. Donc, de l'imaginaire, de la créativité, de la douceur, de l'amour, de l'imaginaire. C'est ça le nouveau monde. Hein. L'usage de la force et la manifestation de la bêtise. Maintenant, l'art, la créativité, la douceur.